Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Aujourd'hui, et comme tous les mois, je suis avec Viviane Lipskier, elle est la fondatrice de Brand Alchemy, elle est l'experte DNVB en France. Elle accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer. Elle est l'auteur des DNVB, les surdoués du commerce digital. Salut Viviane.
Salut Adrien, comment ça va aujourd'hui?
Très très bien. De quoi tu nous parles ce mois-ci?
Ce mois-ci, je parle sneakers parce que, comme tu le sais, Everlane, la DNVB qui est devenue super populaire depuis 9 ans, je ne sais pas si tu réalises déjà depuis 9 ans cette DNVB, et qui s'est fait connaître Everlane par son discours avant-gardiste sur la transparence radicale, et qui a d'ailleurs donné naissance à un nombre de copycats dans le monde, le Everlane du... On en a partout, a lancé fin avril une nouvelle marque de sneakers. Oui. Et ça, c'est une sacrée surprise parce que son fondateur, Michael Pressman, avait toujours dit que ça l'intéressait pas, ce marché. Et comme il avait dit d'ailleurs qu'il ouvrirait jamais de boutique physique non plus d'ailleurs, bien qu'il ait entre-temps ouvert deux boutiques, Everlane, une à New York et une à San Francisco.
D'accord.
Et bien, non seulement il a lancé une paire de sneakers, mais en plus, il l'a lancé sous une nouvelle marque, Trade by Everlane, et avec des médias sociaux différents. Et là, ça commence à poser des questions très intéressantes. Au travers de ce lancement, la première chose qui m'a frappée, justement, c'est ce lancement en termes de marketing. Tu vois, c'est une exécution parfaite, un lancement mondial, juste grâce aux bouches à oreille. Et puis, l'autre chose qui m'a frappée, c'est que Everlane a déclaré qu'il s'agissait de la basket la plus sustainable, c'est-à-dire écologique et durable au monde. Donc c'est logique de s'interroger sur ce point. Et tu sais, j'avais envoyé un post sur LinkedIn. De ce fait, d'ailleurs, j'ai participé moi-même à ce gigantesque bouche à oreille. Et j'ai été frappée par le commentaire de Vulfran Richouz, qui est le cofondateur de la marque de basket Panafrica, la marque française, qui a un très fort impact positif. Et il me disait qu'en fait, il ne trouvait pas la basket vraiment intemporelle. Il la trouvait assez mode. Et c'est vrai qu'à y regarder, ce sneaker, c'est... un mix à l'esthétique minimaliste rétro qui ressemble à la version des New Balance 990 qui est déjà assez vintage pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un point que j'aimerais aborder aujourd'hui. Et puis tout ça va nous amener à un petit tour du monde des game changers de la basket avec des surprises étonnantes.
Mais alors pourquoi Pressman, donc le fondateur de Everlane, lance Fred? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qu'a expliqué Michael Pressman, donc le PDG d'Everlane, c'est que la marque a pris un tournant fortement féminin durant ces années, qui se reflète d'ailleurs sur son compte principal Instagram. Et l'idée avec Trade, c'est de repartir à zéro et d'essayer de revenir à l'unisexe. Parce que la marque, à l'origine, était unisexe.
Ah, ça se voulait déjà unisexe à l'époque.
Dès le début, oui. Et l'autre raison, d'ailleurs, il y a autant de produits pour hommes que pour femmes, mais visiblement, ça marche mieux sur les femmes. Et l'autre raison, c'est que Pressman a réalisé qu'il y avait un énorme potentiel sur ce marché. Donc, c'est pas juste un autre lancement pour Everlane, et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. C'est tout un autre concept, toute une autre idée. D'ailleurs, Pressman considère qu'il y a une lacune sur ce marché de la basket sustainable, à la fois une surabondance, trop de chaussures jetables, et à la fois pas assez de basket sustainable. Et la basket, comme le dit le communiqué de presse de Trade, sont les articles les plus en vogue dans le monde. Les marques déferlent à travers les styles tendances, transformant des chaussures autrefois indispensables en aliments pour les décharges en quelques mois. Pour Everlane, les marques de mode créent des hits, les marques de fast fashion se précipitent à leur suite pour les copier, et la planète souffre quand ce cycle se répète sans fin. À cause de tous les composants qui entrent dans la fabrication du sneaker, dit Pressman, les baskets sont l'un des articles d'habillement les plus impossibles à recycler correctement. Et c'est pourquoi, donc, comme l'indique la marque de basket, elles sont fabriquées dans des matériaux durables qui ont été choisis pour créer la chaussure la moins impactante de son genre, disent-ils. En effet, la chaussure est fabriquée avec du cuir provenant d'une tannerie qui reçoit les meilleures notes du Leather Group Working Group, une organisation qui fait la promotion de la durabilité dans l'industrie du cuir. Saigon Tantec, le fournisseur, a été choisi par Everlane parce qu'ils utilisent l'énergie solaire dans le processus du tannage, consomment 42% de moins d'électricité, 56% de moins d'eau douce, etc. Dans la dernière étape, Everlane compense complètement les émissions carbone en s'associant avec Native Energy, qui travaille avec les éleveurs pour améliorer les prairies américaines en cultivant des plantes qui vont extraire le carbone de l'atmosphère. Bref, l'idée de Pressman, c'est pas de lancer un nouveau modèle chaque mois, ce qui serait... ressembler au modèle existant, mais de créer un classique intemporel qui résonne vraiment avec un impact du produit sur la planète. C'est, dit-il, une réaction à ce que nous voyons maintenant, cette tendance massive qui pousse les gens à changer leur basket de façon si régulière. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter à ces baskets de finir dans la décharge. Ouais. Et de passer, c'est vrai que les baskets sont passées d'un rôle vraiment fonctionnel à un rôle mode grand public. D'ailleurs, on peut constater qu'aucun autre vêtement, peut-être à part le jean, n'a joué un plus grand rôle dans l'histoire des cultures des jeunes. Mmh. Et c'est devenu une dépendance d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on achète tous énormément de baskets. C'est assez rare qu'on n'ait qu'une paire dans les pays développés, en tout cas, et dans toutes les classes, toutes les ethnies. Et ça signifie, ça a un sens d'acheter des baskets. C'est tout un statut social et une politique, en fait.
Raconte-nous un petit peu l'histoire des baskets, parce que c'est pas si vieux que ça, finalement. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité.
Pas si récent, dans l'histoire de l'humanité, oui, on peut dire c'est peanuts, c'est les deux dernières secondes, comme on disait la dernière fois. Mais dans l'histoire de la mode, pas si vieux, ça remonte au XVIIIe siècle. Donc les gens portaient des premières chaussures à semelles de caoutchouc qu'on appelait les plimsolles.
Okay.
Et puis c'était porté par les vacanciers, c'est lié à la classe de loisirs, à la fameuse classe de loisirs qui commençait à les porter. Et puis elle les porte aussi sur les cours de tennis, donc très liée effectivement à une classe aisée. Et c'est l'armée britannique qui a commencé à développer des semelles spéciales avec des motifs gravés pour augmenter l'adhérence de la surface à la chaussure. Et Etonic est la première société de sneakers au monde, fondée en 1876, suivie par le Coq Sportif.
Ah oui, déjà.
En 1882. Oui, donc, okay. Tu vois, c'est vraiment une marque patrimoniale, le Coq Sportif. Et en fait, c'est en 1892 que le processus de vulcanisation, tu vois, toutes les marques de sneakers aujourd'hui, elles te parlent de leur vulcanisation, qu'elles utilisent le processus de vulcanisation, ça n'a rien d'original, hein, attention à ça. Ouais. Donc la vulcanisation, c'est l'opération par laquelle on incorpore du soufre au caoutchouc pour améliorer la résistance. Et c'est le procédé qui a été découvert par Charles Goodyear, qu'on connaît mieux pour les pneus, et qui a été repris par la US Rubber Company pour développer des baskets en toile plus confortables, qu'on a appelées les KEDS. Et là, c'est le moment où tu dois me demander, normalement, mais pourquoi ça s'appelle des sneakers ?
Mais ouais, pourquoi ça s'appelle des sneakers ?
Tu sais pourquoi ça s'appelle des sneakers ?
Bah non,
t'en as une idée ? Et en fait, c'est un nom qui a été donné par le publicitaire Henry Nelson McKinney. Il les appelait sneakers parce qu'il voulait faire référence au fait que ce soit tellement silencieux qu'on pouvait pas entendre les personnes qui arrivaient, donc elles arrivaient en douce, en gros.
Ah,
la mode un peu sneaky,
yes. Sneakers,
yes, okay. Yes. Bon, au début du XXe siècle, il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent.
Choses, hein, ouais,
il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent. Saucony, New Balance, Converse.
Ouais.
Et bien sûr, avec la Première Guerre mondiale, le marché de baskets connaît une croissance exponentielle liée à la demande d'athlétisme et de sport. Les baskets, c'est devenu le signe distinctif de l'Amérique. C'est une déclaration de patriotisme et d'appartenance morale à cette époque. Autrefois emblème des loisirs privilégiés sur les courts de tennis, la basket en toile et en caoutchouc s'est adaptée pour un nouveau sport d'équipe égalitaire, le basketball. Et c'est donc en 1924 que la Chuck Taylor Converse All-Star, la fameuse, la toute première chaussure de basketball, a été vendue pour la première fois. Ce modèle, c'est le modèle le plus vendu dans le monde encore aujourd'hui, le plus vendu de tous les temps. Grâce au génie marketing de Converse, qui a demandé aux entraîneurs aux joueurs de basketball de devenir ambassadeurs de la marque, et y compris à Chuck Taylor, donc qui est le premier athlète à avoir des baskets à son nom. Donc, 1924.
C'est fou. Mais c'est vrai qu'on la voit encore tous les jours dans la rue, c'est juste hallucinant.
Tous les jours. Tous les jours. Je pense qu'on a tous une paire, on est tous nostalgiques de nos Converse, finalement.
Elle a bientôt 100 ans, c'est dingue.
Alors, le gros changement, le gros tournant culturel dans les attitudes envers la basket, ça s'est produit dans les années 40-60, avec cette génération détourné les vêtements de sport pour en faire des vêtements de mode. Mmh. Et puis aussi, évidemment, avec l'extension des loisirs, la première chose. Et puis, l'abandon de l'uniforme dans pas mal d'écoles américaines, on va dire, une plus grande tolérance aux chaussures dans les écoles. Il a fallu comme attendre les années 50 pour que la basket commence à symboliser la contre-culture, l'antiformalité, tout comme le jean d'ailleurs, on voit dans les gens qui portent des jeans et des baskets un symbole d'anticonformité, une tendance iconoclaste qui a été accentuée par l'industrie du cinéma et particulièrement par l'acteur James Dean, avec son image de rebelle dans la société, qui donc ça a véhiculé énormément et le jean, le port de la jean basket et qui
Il portait quoi comme basket à l'époque ?
Il portait des Converse.
Il portait des Converse,
ouais.
D'accord.
Dans la plupart des photos, on le voit avec des Converse noires. Et puis, les baskets, dans les années 50, en fait, on commence à remplacer les chaussures en cuir conventionnelles, déclenchant une guerre pour les parts de marché. La décennie suivante a vu la naissance des marques la marque la plus emblématique au monde, Blue Ribbon Sport, en 1964, qui est devenue, en 1972, l'icône, avec son icône swoosh, Nike, et Vans, en 1966. Et au cours des années 80, les fabricants de baskets ont considérablement modifié l'apparence des baskets, ont acheté des couleurs, ils ont adapté à différents sports, la marche, le skateboard, et puis la culture basket urbaine s'est installée, est devenue un courant dominant. Et pour en savoir plus, on peut vous passer, elle n'est pas accessible, mais il y a une très très jolie étude qui a été faite par Clara Milgram, ma fille. Sneakers from the gym to the street, an analysis of how streetwear infiltrate high fashion, qui a été, donc c'est son étude pour la Bocconi de l'année dernière. Et si vous êtes intéressé, ce n'est qu'une toute petite partie, on pourra vous la passer.
Trop bien. Cool. Alors, est-ce que tu peux nous faire un état de l'industrie des baskets de nos jours ?
Ah oui, alors, le marché mondial de la chaussure de sport, évalué à 64,30 milliards de dollars en 2017, il devrait atteindre 114,8 milliards de dollars en 2022. Les États-Unis, 45% de part de marché, et un quart seulement de ces chaussures sont destinées à l'usage sportif. Sans compter les paires de chaussures vendues sur le marché secondaire, partout dans le monde et par tous les canaux. Les enchères sur eBay, les événements sneakers avec des gros revendeurs comme Flight Club, Goat, Grail Stadium, Goodon StockX. D'ailleurs, les investisseurs ont dépensé des millions pour investir dans ces plateformes qui sont censées révolutionner le marché de la seconde main. C'est vraiment devenu un gros, gros business. Ouais. Sans compter les magasins dépositaires, les groupes Facebook, Origins et Underground, les blogs, iSnobiety, Hyperbeast. Bref, la première plateforme d'achat-vente de baskets, c'est StockX, qui représente environ 20 000 paires de baskets en 2017, selon Forbes. Et StockX, la particularité, c'est qu'en fait, il demande aux clients de traiter les chaussures comme des actions et de les lancer comme on lance une paire de chaussures en bourse. C'est-à-dire qu'il y aurait une valeur résiduelle du sneakers. Et donc, il amplifie le courant de ces marques qui lancent des tout petites bâches, des petites collections, très petits série, nombreux là. Modèles, des petites séries exactement, justement pour alimenter ce marché de la seconde main.
D'accord. Ouais, parce que c'est ça en fait. Ouais. Moins il y en a, plus elles sont chères et
puis les collectionneurs. Ah, et puis il y a de collectionneurs. Il y a vraiment des gros collectionneurs de sneakers. Il y a des salons de la sneaker, etc. Donc c'est une industrie extrêmement rentable et qui va encore augmenter pour atteindre 220 milliards de dollars. On estime à plus de 700 millions de sneakers plus de 700 millions de sneakers ont été vendus dans les magasins physiques en 2017. Mais le e-commerce gagne en importance dans le monde entier. Les achats en ligne de sneakers pèsent un poids très important dans les pays développés, en particulier en Amérique et au Japon. Et on observe une demande croissante en Inde et dans la zone Asie-Pacifique. En Chine, elle représente plus de 23% du marché chinois en 2017. Donc, c'est en Chine que la part de marché électronique est la plus importante. Et d'ailleurs, j'avais vu une nouvelle assez récente disant que Allbirds, la sneakers écologique américaine, se développait sur le marché, préparait son entrée sur le marché chinois. On comprend bien pourquoi, pour une marque complètement digitale.
Ouais. Et j'ai vu encore un article ce matin, je crois que c'est dans le Business of Fashion, qui parlait la sneakers commence à envahir le marché chinois. Et, alors, j'ai pas lu l'article, mais je pense qu'ils font référence à Allbirds et également. Juste un dernier truc sur Allbirds. Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Je crois que tu me l'as déjà dit, mais c'est quoi la raison pour laquelle ils s'attaquent à chaque fois à un seul marché à la fois ?
Ouais, le marché chinois, c'est un continent. Le marché américain, c'est déjà un énorme marché. Le marché chinois, c'en est un autre.
Mais Allbirds n'est pas présent en France. Tu ne peux pas acheter une paire d'Allbirds
en France. Non, on ne peut pas encore acheter une paire d'Allbirds en France. Je pense que du point de vue culturel, c'est plus facile d'attaquer un continent comme la Chine que d'attaquer l'Europe, avec des vraies grosses différences. Et déjà, pas mal de choix dans une basket, on va le voir, durable.
Et surtout que les Allbirds, elles sont quand même pas très belles.
Ah bon, alors écoute, sur l'aspect esthétique, on peut en discourir pendant longtemps. On va y venir.
Ouais, j'ai une question. Où sont fabriqués les sneakers qu'on porte majoritairement ?
Actuellement, 87% de la chaussure du sneakers était fabriquée en Asie ou dans les pays en développement. Et d'ailleurs, c'est souvent lié à l'exploitation de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre à bon marché. Et malheureusement, les droits des travailleurs sont souvent inexistants et extrêmement limités. Et souvent, les travailleurs sont pressés comme s'ils étaient des machines. Ils ont des cartes de travail interminables, des salaires de misère, peu de sécurité dans les usines. Les baskets sont aussi problématiques pour l'environnement parce qu'elles sont faites de tant de composants différents qui sont collés ensemble. Ouais. Et le défi avec les baskets, c'est vraiment la complexité de l'assemblage et des matériaux. Une basket peut avoir 80 composants différents.
Mmh. Et surtout, il y a la colle PLU là, qui est hyper, hyper nocive.
Ouais, exactement. Selon une analyse du cycle de vie effectuée par les laboratoires des systèmes de matériaux du MIT, la faculté américaine, une paire de baskets génère 13,6 livres d'émissions, je ne sais pas combien ça fait en poids, en kilos des livres, de CO2, ce qui équivaut à laisser une ampoule de 100 watts allumée pendant une semaine entière. Alors tout ça s'additionne quand tu considères le nombre de baskets qui sont produites chaque année. On considère d'ailleurs que, selon certaines estimations, Nike tout seul fabrique 25 paires de chaussures à la seconde. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, on comprend vraiment qu'il y a un marché énorme dans lequel Michael Pressman, le PDG d'Everlane, a décidé de s'engager en lançant sa basket intemporelle. L'opportunité pour lui, c'est de développer sa marque à l'international, comme on vient de le dire, de sortir des États-Unis avec un produit mixte qui correspond aux attentes en matière d'écologie pour les consommateurs qui se sentent concernés sur ce point. Et ils se sont de plus en plus nombreux. Pressman dit d'ailleurs que ses clients demandaient cette basket depuis 5 ans. Mais il hésitait parce que justement à cause du terrible impact environnemental. Et il dit, je crois qu'il y a probablement une nouvelle clientèle qui n'a jamais acheté chez Everlane, mais qui s'intéresse à la sneakers et à la durabilité qui verra le jour. Donc en particulier la clientèle masculine. Donc c'est encore une fois une manière à la fois de se développer sur un nouveau marché, à la fois d'intégrer le marché de la sneakers et puis d'aller rechercher un nouveau souffle de croissance auprès d'une nouvelle clientèle qui ne s'intéresse pas à Everlane pour autre chose que le sneakers. D'ailleurs, bon, on l'a dit, voilà, c'est un marché. Allbirds a attesté de l'essor des marques de chaussures durables. Hein, et Allbirds, je rappelle qu'il fait quand même des chaussures, même si tu les trouves pas jolies, en matériaux alternatifs, laine et fibres de pâte d'arbre. Donc l'idée aussi d'Everlane, c'est de casser les préjugés en disant, bon, avec toi ils n'ont pas réussi, durable, éthique, égale moche ou de moindre qualité. Et ce que dit le fondateur de Allbirds d'ailleurs, c'est que comme d'autres perturbateurs, on a puisé dans le désir et l'ouverture d'esprit de certains millennials de modifier la valeur qu'ils accordent aux produits en fonction de leur degré d'harmonisation avec leurs propres valeurs personnelles.
Très bien. Et est-ce que ce sneakers, il est si intemporel que ça finalement ?
Alors, j'ai lu un article on parle du sneakers Everlane, bien sûr, un article de Fast Company qui dit... titré « Le normcore chic », donc le normal chic. Bon, ça, c'est une notion très américaine, hein, le normcore.
Le normcore,
oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que dit le fondateur d'Everlane ? Fabriquer une chaussure sans plastique à 94,2%, c'est bien, mais ça n'a pas de sens si personne ne veut l'acheter. Tread ne peut pas atteindre son but en concevant une chaussure qui soit à la fois cool et intemporelle si les gens ne veulent pas la porter maintenant et longtemps dans le futur. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il essaie de créer le cheval de Troie du sneakers durable. Donc, de pénétrer ce marché avec une approche différente. Le traîneur sans plastique, ça sert à rien si la chaussure a pas l'air cool. C'est comme si Tesla construisait une voiture durable et qu'elle était laide et merdique, sont ses mots, et qu'elle bougeait à peine. Donc, voilà, on se doit de donner une voiture durable à propulsion électrique avec le meilleur design d'aujourd'hui. Donc, le défi d'Everlane, c'est une chose intemporelle et classique, mais distinctive, reconnaissable et qui est son point de vue. C'est ce que dit Alison Melville, qui est la responsable, des chaussures et accessoires chez Everlane. Bon, alors, chaussure, tu l'as vu, je ne sais pas ce que tu en penses, donc moi je trouve qu'elle ressemble à une New Balance. Ouais. Elle a cette semelle à double niveau, petite touche design, oui, qui lui sont propres, la semelle crantée, une partie perforée sur le côté de la tige. Enfin, pour moi, rien de spécialement nouveau.
Ouais, révolutionnaire.
Voilà, des couleurs monochromes comme la marque nous a habitués, des couleurs sourdes, blanc cassé, gris glacier, gris brun, beurre, une espèce de beige blanc cassé, rose pâle. Bon. Donc, comme le dit Wulfram Dreischoof, le cofondateur de Panafrica, il ne suffit pas de faire un modèle sans logo pour faire une basket intemporelle. La Tread s'inscrit visuellement dans la mode, quand même, avec sa double semelle crantée. C'est comme si, ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui, Everlane avait pris toutes les parties qu'il aimait sur des chaussures de course rétro et les avait mixées dans une basket. Et de ce point de vue... c'est à nouveau Wulfram dans nos échanges qui me disait ça. Il la trouve beaucoup moins intemporelle, par exemple, qu'une Allbirds ou une Veja.
Ouais.
Le Veja, c'est design impeccable depuis 2005, hein, et qui expérimente elle aussi des alternatives avec des matériaux à forte densité carbone, comme la peau de tilapia, le coton biologique. Et une chaussure qui répond aux normes du commerce équitable, avec un caoutchouc qui est récolté pour préserver, de manière à préserver la forêt amazonienne. D'ailleurs, je tiens à souligner, Veja, hein, pas mal de gens pensent que c'est pas une marque française, c'est une marque française, c'est plus une petite marque à la marge. Elle a fabriqué plus de 2 millions de paires depuis ses débuts, elle est présente dans plus de 40 pays, et je pense qu'elle a montré la voie, que la voie était possible dans la durée, tout en continuant de croître, en se basant sur des principes radicalement différents du système dominant.
C'est clair. Et je vous invite à réécouter l'interview de Sébastien Kopp que j'ai interviewé
absolument,
assez récemment.
Absolument, profond respect.
Qui était assez cool. Tu disais en introduction que tu avais trouvé assez unique la stratégie d'Everline pour le lancement de leur basket.
Oui, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était assez malin, leur manière de faire. C'est un lancement qui était à la fois subtil, discret et en même temps massif. C'est vraiment la tactique particulière d'Everline pour ces lancements globalement et qui s'inscrit dans leur politique globale. Parce que donc Everline est engagé pour une mode durable et ils se sont engagés à réduire, à éliminer la totalité du plastique vierge dans leur chaîne de production d'ici 2021. Et d'ailleurs, le lancement officiel de Trade a eu lieu le 23 avril. Pour célébrer le jour de la Terre. Et en fait, cette campagne s'inscrit elle-même dans la politique donc de Everline qui s'appelle Renew, R-E-N-E-W, qu'ils ont commencé depuis la fin de l'année dernière en lançant une ligne de 13 modèles de vêtements pour le froid hommes et femmes fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées. Cette collection a été la première mesure d'engagement d'Everline à éliminer tout son plastique vierge. Et ça a donné le coup d'envoi d'un nouvel an. Donc, ce coup d'envoi, a été marqué par des envois de courriel très larges, très ciblés, pour sensibiliser leurs consommateurs aux déchets plastiques. Et d'ailleurs, ils l'ont mis en valeur de manière omnicanal, puisqu'ils ont annoncé à ce moment-là non seulement un nouveau concept shop, le Renew, et puis ils ont envoyé un guide de recyclage des produits du quotidien. Dans le même cadre, Everline a conclu un partenariat avec le New York Times, permettant aux deux entreprises d'exprimer leur point de vue sur le changement climatique. Donc cette collection, c'est une collection spéciale, qui s'appelle Enter the Climate Collection, qui a sa propre page d'accueil sur everline.com, et qui propose une version limitée de 5 articles avec le slogan Truth, it affects us all. Ça veut dire ça nous affecte tous. Et l'idée, c'est vraiment pour les deux entreprises d'axer un discours sur l'éducation vis-à-vis des climato-sceptiques. Aux États-Unis, c'est un courant qui est encore trop important. Et Pressman a dit le produit est vraiment secondaire. Ce qui compte, c'est vraiment la pédagogie. Pour en revenir plus spécifiquement à Thread, donc qui s'inscrit dans toute cette politique. Depuis début 2016 déjà, Everline avait lancé un compte social qui s'appelait Everline Studio sur Instagram, un compte privé qui était dédié juste au lancement de nouveaux produits. Donc c'était un compte un peu VIP. À l'époque, l'entreprise l'appelait l'incubateur Instagram. Et il utilisait le compte comme un nouvel endroit pour lancer de nouveaux produits, recueillir des commentaires et s'engager avec ses clients les plus fidèles. Mais il est resté privé. Et les utilisateurs devaient demander l'accès. Donc moi, j'avais demandé l'accès à l'époque. Puis en fin de compte, il y a très peu de demandes qui ont été acceptées, environ 4000. Et ils n'ont posté que 8 fois. Et on a un peu oublié l'expérience. Moi, il n'y avait pas de poste. Donc
mais tu avais été accepté ?
Moi, j'avais été accepté, ouais. D'accord. Et c'est ce qui fait que...
Et pourquoi tu avais été accepté ?
Aucune idée. Pas de raison particulière. Pas de raison particulière. Je ne peux pas savoir. J'étais déjà cliente, ceci dit. Et puis client de la première heure, donc peut-être que ça a compté pour eux dans le choix de leur VIP. Parce que dans le cadre de l'écriture du livre, en fait, j'ai quand même testé un certain nombre de produits, tu vois, testé les services clients. Donc ça me paraissait important par rapport à ce que j'écrivais. Et donc début avril, juste avant la sortie de Thread, tous ceux qui avaient demandé à suivre le compte, on a reçu une notification en push. Mais ce qui était surprenant, c'est que le compte avait changé. C'était plus At Everline Studio, mais c'est Shred by Everline qui a accepté notre demande de suivi. Donc, ça a été un peu confusant. Et entre le 15 et le 23 avril, donc la semaine qui a précédé le lancement, là, ils ont posté au moins 39 articles en cascade, des teasers, des images partielles multiples, des photos de produits, mais pas très évidents. Et finalement, le tout a composé une grille complète. L'entreprise a lancé Thread by Everline open au public 2 jours justement après cette cascade et une annonce sur son site 2 jours avant le lancement officiel avec une wishlist donc open qu'ils ont fait connaître aux clients, à leur base client par email. Donc, et surtout auprès des consommateurs qui attendaient la basket depuis longtemps, et c'est comme ça qu'ils ont suscité le buzz.
Trop bien. Donc si je comprends bien, Trade by Offred by Everlane est présenté comme une nouvelle marque qui mérite une présence dédiée dans les médias sociaux, même si elle peut être achetée sur le site phare du groupe Everlane.
Ouais, et si on regarde bien, il y a quelques temps, j'avais parlé du lancement de Play par Glossier.
J'allais t'en parler.
Exactement. Tu vois les similitudes ?
Bah oui.
Eux aussi, ils ont lancé une deuxième marque, donc Glossier Play, avec pareil, exactement la même manière, un compte secondaire sur Instagram. Glossier Play concentre les produits coloriés, plus audacieux que la ligne homonyme qui est plus sobre et cool. En fait, la ligne Glossier Play est présente sur le site de Glossier. Oui. Le compte principal de la marque, d'ailleurs, fait pas mal de crossover. Si on remonte encore dans le temps, on peut se dire que c'est quand même un emprunt à la stratégie social media de Nike Lab, qui est aussi un compte dédié pour ses baskets. Alors, moi, je pense que cette stratégie, elle a du sens dans la relation entre la marque mère et la nouvelle extension de marque. Mais ça peut aussi être contre-productif de demander aux gens de suivre deux comptes en dehors du flux original, et il y a un risque toujours de fractionner l'audience. Maintenant, vraiment, la stratégie, c'est d'aller chercher une nouvelle audience masculine, donc avoir un fil beaucoup plus masculin sur le sneakers. Donc, il y a un risque, mais c'est vraiment pour moi une manière de faire qui est à suivre. Je suis pas sûre que le nouveau compte puisse résoudre vraiment le problème d'Everlane, mais en tout cas, cette évolution de Trade est à suivre de très près.
C'est bien durable, mais est-ce qu'il y a des marques qui s'intéressent à la circularité, à ce qui arrive à nos chaussures une fois que nous les avons usées?
Ça, c'est le gros reproche que je fais très objectivement à Everlane, de ne pas considérer la vente comme le fin de cycle de production et de pas essayer de travailler la notion de déchet et d'éviter le gaspillage. En fait, la circularité, c'est vraiment réduire l'impact des matériaux durables, mais c'est aussi de considérer que quand tu as vendu ton produit, la marque est encore responsable de ce qui va lui advenir. Là-dessus, la plus exemplaire, c'est Stella McCartney. Elle le dit nettement, l'avenir de la mode est circulaire, elle sera réparatrice et régénératrice par le design et les vêtements que nous aimons. Et les vêtements que nous aimons ne finiront jamais comme des déchets. Donc il faut bien repousser les limites et remettre en question le statu quo en passant d'une simple réduction de notre impact à impact positif, en réimaginant l'industrie de la mode telle que nous la connaissons et passer à une nouvelle économie circulaire. Et aujourd'hui, alors, il y a elle qui fait des baskets qui sont quand même très mode et féminines. Adidas, qui a créé la première basket entièrement recyclable au monde, la Futurecraft Loop. La chaussure est entièrement faite d'un seul matériau qui est polyuruthane thermoplastique, qui peut être lavé, broyé en granules, fondu pour créer un fil qui est utilisé pour tricoter la partie supérieure de la chaussure et qui est fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés qui sont transformés en fil. Cette chaussure est conçue pour être 100% recyclable et pour le marché de masse, surtout ce que ne sont pas les Stella McCartney. Les sneakers, elles sont faites pour être achetées, utilisées, usées et retournées chez Adidas, où l'entreprise va ensuite les redécomposer, redécomposer les matériaux et les transformer, non pas comme des marchandises, des sacs fourre-tout ou des bouteilles d'eau, mais des chaussures plus performantes. En dehors d'Adidas, Nike a une chaussure aussi qui est partiellement recyclée, recyclable. Ce que je veux dire à propos de Nike, c'est qu'ils ont, là, pendant le sommet de Copenhague, qui pour moi était le summum du greenwashing quand même, mais j'ai quand même noté que Nike a joué l'open source et a mis à disposition un guide, le guide du futur design qu'ils ont créé avec le DA de École de Wall, Samuel Rosset, et des étudiants de l'école anglaise Central Saint Martins. Et c'est un document que j'engage chaque futur entrepreneur de la mode ou chaque entrepreneur de la mode à lire attentivement. Il est créé autour de 10 principes de conception et de vie d'un produit, le choix des matériaux, la cyclability, c'est-à-dire le recyclage des designs, la prévention du gaspillage, le démontage, la chimie verte, la remise en état, la réutilisation et la durabilité. Le packaging réutilisable et les nouveaux services, nouveaux business models. Et à chaque fois, c'est un guide, il y a des idées de départ, des études de cas qui sont Nike, mais aussi d'autres marques, très pertinents. des idées de livres, des vidéos, des podcasts pour aller plus loin. J'ai pas trouvé les conseils révolutionnaires, mais ils sont très pratiques et on peut le télécharger en ligne. Pour moi, c'est une très bonne base de réflexion de départ pour toute nouvelle marque qui va se lancer. On mettra le lien, bien sûr.
Bien sûr. Au tout début, dans l'introduction, tu nous avais parlé d'un petit tour du monde des game changers de la sneakers. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est ?
Oui. Il y a de plus en plus de DNVB qui arrivent et qui se présentent comme étant très respectueuses de l'environnement, ouais. À la fois parce que le consommateur s'y intéresse, mais aussi et surtout parce que les fondateurs y sont attachés eux-mêmes. Donc, on a vu Veja en France et je voulais te parler de Panafrica, donc, puisque j'ai, à l'occasion de ce podcast, du coup, j'ai rencontré Vulfranc, et qui a créé sa marque avec, en 2015 avec Hugues Didier. Ils avaient lancé une campagne de crowdfunding où ils avaient vendu d'ailleurs 2000 paires en un mois, atteint 1000% de l'objectif et vendu pour 100 000 euros de paires. Franchement, il y a vraiment un intérêt. Elles sont fabriquées en Afrique dans le but de continuer au maintien et au développement de l'industrie locale du wax. Oui. Donc le wax, le fameux batik javanais importé au Cameroun par les Hollandais au 19e siècle, imprimé à la cire, qui est aujourd'hui totalement intégré à la culture africaine. Et ils ont mis en place un schéma de commerce équitable. Ce qui est remarquable, c'est que les deux cofondateurs améliorent sans cesse leur initiative durable et prennent en compte l'homme dans son environnement, dans chaque phase de production des sneakers. D'ailleurs, c'est une production qui est raisonnée et étendue sur 6 mois. Là, en ce moment, ils sont dans une phase de forte croissance, me disait Vulfranc, et ils continuent à se poser des questions autour de la circularité. Ils considèrent, eux, qu'ils sont responsables du produit du début à la fin. Il m'a dit... je le cite, aujourd'hui, tout le monde se dit responsable, mais les produits finissent quand même par s'accumuler ou finir à la poubelle. Il faut qu'on offre à nos clients un système qui leur permette de renvoyer les paires gratuitement. Donc, c'est ce qu'ils ont mis en place, un système. Les clients prennent en photo leur paire de Panafrica. Et si elles sont suffisamment en bon état encore, ils prennent pas non plus les vieilles paires cradotes, elles seront désinfectées et les éléments amovibles, lacets, semelles intérieures et œillets seront remplacés. Donc ils ont prévu dès la production du sneakers que ces parties puissent être amovibles. Les sneakers sont cousus et pas collés pour qu'on puisse justement changer certaines parties.
Ouais, ça c'est un vrai sujet.
Ouais. Ces paires seront remises en vente après avoir été désinfectées, remises en état à leur showroom pour l'instant, puis peut-être plus tard sur leur site. Le client lui, il reçoit un bon de réduction pour acheter une paire. Et puis, ça satisfait aussi tous les gens qui n'ont pas envie d'acheter du neuf et qui sont de plus en plus nombreux. Tu sais que bientôt, le marché de la seconde main va dépasser le marché de la mass market, ce qui peut que nous réjouir.
C'est clair.
Donc, bien sûr, ça coûte un peu d'argent à la marque, la remise en état, et le coût de revente est tellement faible. Mais en fait, Vulfranc pense que c'est le futur de chaque marque de savoir quel rôle il doit jouer du début à la fin du cycle et avoir... conscience du produit, même quand il est dans la main des consommateurs. Et c'était un gros challenge pour eux, parce que c'est une petite marque, mais la réaction était hyper positive et leurs posts sur les médias sociaux ont suscité beaucoup d'enthousiasme. C'est un engagement fort, dit-il, que même les grandes marques écologiques ne font pas. C'est une initiative qu'il a bêta-testée auprès de ses plus 200 plus grands fidèles clients, tous ceux qui les accompagnent depuis 2015. Donc allons-y, on peut le faire. Je voulais parler vite fait parce que beaucoup de marques à vous présenter, Garçon et Chérubin, tu la connais Garçon et Chérubin ? Tu connais Edouard ?
Non, je ne connais pas Edouard.
Qui est une DNVB qui fait des chaussures depuis un petit moment et qui lance sa première basket 100% vegan et éco-responsable. Ouais. Et je voulais parler d'eux absolument aujourd'hui parce que ils sont commencent leur campagne le 27 mai sur Ulule, donc un bon moment pour les encourager.
Okay.
Exactement. Oui, ils ont commencé le 27.
Ils ont commencé le 27 il y a 2-3 jours. Ouais.
En Italie, on a une très jolie marque, deux d'ailleurs, Yate, une marque 100% durable qui a été créée assez récemment par Umberto De Marco, un Milanais trentenaire qui était lui spécialiste du cuir synthétique et qui voulait proposer du Made in Italy avec cette notion toujours de grande élégance et de luxe, même si les chaussures sont très abordables. Son modèle Neven, il est on dirait un croisement entre la Stan Smith et la Air Force One. Elles sont 100% écolo, avec des résines biologiques. Je ne vais pas revenir les matériaux constitutifs, ça serait trop long. Juste dire que la marque plantait un arbre pour chaque paire achetée, avec un partenariat avec un organisme à but non lucratif. Ce qui m'intéresse chez Yate aussi, c'est, puisque j'aime bien parler marketing aussi, c'est leur discours écologique inversé. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent On va pas vous dire comment l'industrie de la mode contribue à la crise environnementale majeure. On va pas vous embêter avec la durée de vie des pièces ou la façon dont la plupart des vêtements finissent dans des décharges. Donc ils le disent à l'envers, tu vois, mais ils le disent. Une deuxième marque italienne très très sympa, Womsh. Ouais. Italian Zero Impact Sneakers, tu les connais ?
Non, je connais pas. Ouais.
Alors c'est Gianni Dalla Mora, ouais, qui est lui né dans l'industrie de la chaussure, ses deux parents étaient dans du milieu, qui a créé en 2011 cette marque, qui s'est fait un nom ces deux dernières années, hein, qui commence à être connue en Europe avec des baskets aussi 100% italiennes, pareil, avec un très zéro impact. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que au lieu de devenir des déchets, ben les chaussures, ils les embarquent dans une nouvelle vie, en fait. Donc, on peut rapporter ses chaussures à sa boutique ou les renvoyer. On reçoit pareil un bon cadeau. Et lui, en fait, il va récupérer le caoutchouc et en faire, le transformer en aire de jeu pour les enfants. Elles vont avoir une nouvelle vie.
Ouais, ça me parle.
Ouais. Donc, il crée des surfaces anti-chute en collaboration avec un projet qui s'appelle I Giardini di Betty, les jardins de Betty. Et puis, une petite remarque encore sur Womsh, c'est l'acronyme de World of Moss Shoes, en fait, pour dire que la seule publicité, c'est le bouche à oreille. Et l'idée, c'est d'avoir aussi un marketing à impact environnemental nul. Ario. Cario Mario, qui fait des pièces à la main en petite série.
Ouais.
Le projet brésilien, c'est un projet citoyen du monde. Les fondateurs de Cariuma, c'est des anciens cadres de l'industrie de la chaussure aussi, qui sont tous partis. Ils ont fait un tour du monde ensemble et ils se sont dit, que faisons-nous ensuite ? Ils ont interrogé les gens là-dessus. Et en fait, ils avaient une passion basket pour l'artisanat, etc. Et l'idée, c'est d'avoir une culture hyper chaleureuse et de changer la planète, mais de changer la planète par des entreprises aux pratiques meilleures. Donc, c'est ce qu'ils essayent de mettre en œuvre dans Petite Cariuma Rio.
Trop bien.
Oui. Ensuite, en Allemagne, OTH, Off the Hook, propose des sneakers en semelle inusable, conçus à partir de pneus recyclés qui ont déjà parcouru le globe, qui disent comme un trait d'union entre le passé et le futur. Pour l'instant, pas d'alternative vegan, disent-ils, parce que bon, voilà, pour eux, il n'y a pas encore de procédé qui soit complètement propre. Autre alternative très intéressante, Peterstone Stoop Upcycling à Amsterdam, en Hollande. Des chaussures qui se veulent sans distinction de sexe. C'est une marque qui a été fondée par Peterstone, j'espère que je le prononce bien, Stoop et Jelske Peterson. Non, Jelske Peterson et Jara Stoop, pardon. Alors, ils avaient commencé tous les deux, c'est vraiment des gros pionniers. Ils avaient commencé l'un et l'autre dans des expériences de tannerie et de réparation de chaussures.
Okay.
Et puis là, ils se sont dit qu'il y avait peut-être une manière de développer un concept tout nouveau et d'aborder la question des déchets dans l'industrie de la chaussure de manière complètement originale. Donc, ils déconstruisent des baskets vintage et ils les reconstruisent avec des matériaux naturels, du liège et du cuir. Je vois déjà ta remarque sur l'esthétique, Adrien.
Non, pas du tout.
Vous y regardez sur le site.
Non, mais si, mais il me semble les avoir vus et c'était pas si mal que ça.
Il y a Ekin aussi en Allemagne qui utilise des matières non résiduelles.
Ouais.
Ma préférée, Gumshoe, aux ouais. Pays-Bas. On en a déjà parlé tous les deux, Adrien. Alors là, c'est vraiment l'idée de génie, c'est-à-dire que les mecs, ils sont allés gratter les trottoirs d'Amsterdam pour récupérer le chewing-gum. Et avec Gumshoe, ils ont fabriqué... il faut dire, le chewing-gum, c'est le deuxième déchet le plus important aux Pays-Bas, après la cigarette. Donc avec l'association Amsterdam Explicitware et Gumdrop, ils ont réussi à concevoir une paire de chaussures qui est constituée à 20% de chewing-gum. Anna Bulus, la directrice générale et designer chez Gumdrop, elle a dit « Nous avons découvert que la gomme est fabriquée à partir d'un caoutchouc synthétique et en décomposant ses propriétés, nous avons pu créer un nouveau type de caoutchouc. Pour 4 paires de chaussures, on utilise 1 kg de gomme. » Alors, en dehors de la semelle, c'est du cuir quand même. Côté coloris, y a un rose bubblegum qui est assez marrant. Sinon, il y a un rouge et un noir qui sont un peu plus conventionnels. Et sous la semelle, t'as une carte des rues d'Amsterdam qui met en évidence la quantité de gomme à mâcher trouvée dans les rues. Voilà, c'est un moyen sympa de sensibiliser aussi les gens à un double problème, le chewing-gum, donc le fait de jeter le chewing-gum dans la rue
et
le cycling. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas testé cette chaussure, je l'ai pas vue, mais on m'a dit qu'elle avait une petite odeur de gomme à mâcher, mais qu'elle n'était pas collante.
Parce que le jour où il fait vraiment chaud, tu risques
ouais.
d'être.
Ouais, d'ailleurs, ils utilisent aussi le, ouais, ils étudient le moyen de remplacer la semelle aussi, du coup, pour regarder le cuir et remplacer la semelle, ce qui n'est pas idiot aussi. Ouais. Et pour finir, en Espagne, Wado. Ouais. Pareil, je ne vais pas revenir sur toutes les composantes de la chaussure, mais juste pour dire qu'il y a un vrai mouvement, un vrai changement. En fait, Wado s'est lancé sur une campagne Indiegogo en avril 2018. La campagne a remporté un tel succès. 1 798 000 euros, plus de 35 000 arbres plantés. L'objectif dépassé, plus que dépassé. Donc il y a un vrai besoin.
Ils étaient très forts en retargeting.
Ouais, très très fort. Très très fort.
Non mais moi, c'est fou, ils m'ont
suivi. Tu les avais suivis ?
Ouais, ouais, mais j'ai dû cliquer une fois et ils m'ont suivi, ils me suivent encore. Quoi.
Ah,
c'est
d'accord.
Vraiment hallucinant. Je pense qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le retargeting. Et.
T'avais suivi la campagne Indiegogo ?
Non, j'avais pas suivi la campagne Indiegogo.
Mais tu les as connus après ?
Tu peux continuer à les acheter.
Oui,
les
bien sûr, maintenant ils ont un site régulier, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Tu penses que là, sur cette campagne-là Indiegogo, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a marqué ? C'est de planter deux arbres ?
Non, il y a tout le projet. Globalement, c'est un projet social et un projet effectivement de replantation d'arbres en Inde et en Zambie. Non, c'est le fait que dans ces pays-là, en Espagne et au Portugal, il y avait une forte demande et il n'y avait pas de réponse spécifique. Le fait que ce soit un trio d'ailleurs
d'étudiants, non ?
D'étudiants, ouais, c'est ça. C'est un peu l'effet respire.
Oui.
Tu vois ? L'identification très forte, de simplicité dans la communication, etc.
La mise en scène des
oui.
cofondateurs. Quoi.
Exactement, exactement. Et Respire, c'est le déodorant
sans produits
chimiques, évidemment, ouais. qui a été lancé assez récemment, avec le succès qu'on lui connaît, et qui est d'ailleurs distribué maintenant. Ouais. J'ai oublié le nom de la fondatrice, si tu m'en excuseras.
Mais on mettra le lien.
Qui est distribué chez Monoprix maintenant. Hein. Belle victoire. Oui. Ouais. Belle victoire.
Mais franchement, c'est un cas d'école. Le lancement est vraiment impressionnant.
Oui. Par le bouche à oreille uniquement, encore une fois, une vidéo extrêmement virale, mais d'une grande simplicité finalement. Où
hyper simple.
Avec un white très fort, on arrive à fédérer énormément. Bon, je crois qu'il est temps de conclure.
Oui.
Et je voudrais conclure avec le post de Mitié, qui est une blogueuse australienne. Je vais juste vous lire ce qu'elle a écrit. Si vous cherchez à acheter des chaussures de course fabriquées localement et produites de façon éthique, vous êtes sur la bonne voie pour vous donner une énorme mal de tête. Dans le cadre de ma promesse d'acheter des chaussures locales, j'ai essayé de trouver des chaussures performantes, de bonne qualité, qui soient fabriquées en Australie, mais l'exercice s'est avéré inutile. Bien qu'il soit possible de trouver des chaussures de sport décontractées qui conviennent, les chaussures de sport performantes ne font pas partie du paysage de la production locale. C'est une de ces situations écrasantes où votre conscience de l'emprise du système dans lequel vous vivez devient trop réelle. Vous devez faire les meilleurs choix possibles et lorsque ces choix le permettent, les utiliser comme votre plaidoyer pour le changement. Voilà. Donc effectivement, on voit arriver de plus en plus de belles initiatives en ce qui concerne les sneakers du quotidien, mais pas encore pas assez pour les chaussures de sport. Donc entrepreneurs, futurs entrepreneurs, il y a de belles opportunités.
Ouais, j'ai envie de faire des baskets maintenant.
Allez, la prochaine, Adrien fera des baskets.
Non, mais... dernière question quand même. On parle beaucoup de sustainability et moi j'en parle systématiquement dans tous mes podcasts. J'en parle hier encore, j'étais sur un salon de Nîmes, by Première Vision à Milan. C'est des sujets qui reviennent systématiquement. La grande question qu'on se pose tous, c'est aujourd'hui les gens. Alors j'ai vu une étude passer, 7% des gens achètent un produit parce qu'il est sustainable. En tout cas, il est a priori sustainable. Mais la grande majorité des gens achètent encore les vêtements, les baskets, etc. parce qu'ils sont beaux, parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix, etc., etc. Et souvent, quand je pose la question aux gens qui ont ce discours-là, je leur demande mais c'est quoi le dernier truc que t'as acheté ? Souvent, ça vient de chez.
Qui on veut pas dire.
Ouais, exactement.
Oui,
tu vois.
Oui, l'idée c'est vraiment d'arriver aujourd'hui, de pousser tout le marché. Tu vas en passer en 10 ans de la sustainability, c'est forcément moche, à aujourd'hui, on peut rendre désirable avec le système court, avec le système des DNVB, pas forcément plus cher. On peut le tracer et on peut faire des jolies choses. Regarde Balzac Paris, c'est juste formidable ce qu'ils font. Regarde Patine aussi. Je cite pas toutes les marques, il y en a énormément qui sont formidables. Il y a de plus en plus d'appétence. Une étude globale, ça veut pas dire grand-chose. Il y a plein de gens qui sont intéressés massivement. On peut dire que les gens s'y intéressent pas massivement, mais il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et les gens qui s'y intéressent vont globalement aller convaincre. C'est toujours pareil, c'est les early adopters qui vont aller convaincre les autres. Plus on dira que le sustainable est cool, plus on le rendra cool et plus il sera désirable en fait. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait ici sur entreprendre dans la mode et de la pédagogie qu'on a autour. Moi, je suis persuadée que sustainable et cool, ça peut très bien rimer. Ça demande un effort supplémentaire, c'est pas forcément simple. Il y a encore des équations difficiles à résoudre. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. L'idée, c'est d'être work in progress et de le dire, de dire qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et de progresser à chaque fois dans ce sens-là, d'aller toujours plus loin et plus fort. De toute façon, la question ne se pose même pas parce qu'on ne peut pas faire autrement. Notre planète ne le supporte plus. Donc la question de fond ne se pose pas. On doit le faire, on doit convaincre le plus en plus de gens le plus vite possible en faisant des choses, des choses, j'ai dit lapsus, des choses cool, vraiment cool, qu'on ait tous envie de porter. Maintenant, je vois aussi que l'opinion change très vite. Ce matin, j'entendais sur Inter qu'ils proposaient le lancement d'une nouvelle émission sur justement l'éco-responsabilité qui s'appellera La Tête au Carré. À une heure de grande écoute sur une chaîne de radio, somme toute, grand public.
Plus écouté.
C'est ça. Donc, on peut se dire qu'il y a un vrai changement et en tout cas, on va l'encourager.
Très bien. Sustainable is cool, vous avez entendu. À bientôt. Merci.
Merci Adrien.
Salut.
Au revoir.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.